Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour Karine.
Aujourd'hui, c'est une célébrité dans l'histoire de l'écologie dont vous allez nous parler, le commandant Charcot. Il est un peu oublié aujourd'hui, mais il a été un pionnier dans la découverte des pôles avec son navire, le Pourquoi pas. En quoi les archives du ministère des Armées éclairent-elles sa personnalité d'un nouveau jour ?
Vous avez raison de dire que Charcot est un peu oublié. Allez, pour se rafraîchir la mémoire, voici comment la télévision et la radio présentaient notre commandant Charcot en 1967, plus de 30 ans après sa mort le 16 septembre 1936.
Si aujourd'hui, après 31 ans d'absence, le commandant Charcot revenait chez lui, il y verrait à la même place qu'autrefois tous ses meubles, ses livres, ses collections. Madame Alard Charcot, fille du grand explorateur, que représentaient pour vous tous ces voyages ?
Eh bien, une grande fierté. Et malheureusement, vous savez comment le dernier s'est terminé. Et c'est une angoisse qui a pesé sur nos vies, on peut dire, à chaque départ. Ce n'était pas seulement notre papa. Il appartenait à toute la France qu'il aimait tant et pour laquelle il a fait le sacrifice de sa vie.
Oui, alors on l'aura compris, hein, Charcot
c'est
est
beau.
Avant tout... Oui, c'est beau. Il est perçu d'abord comme un scientifique, un explorateur, un navigateur, parti à la conquête des mers glacées. Mais les archives des armées donnent un jour différent à cette mémoire. On mesure à quel point la marine militaire a permis sa carrière. Et c'est son dossier personnel qui nous renseigne précisément sur ce point. Rappelons que Charcot est médecin, fils d'un grand médecin, un des fondateurs de la psychiatrie française. Et très tôt, ce Parisien s'est passionné pour la voile. Dès 1900, il a transmis à la marine ses travaux sur les courants dans les îles britanniques, un peu comme un officier de renseignement. Et puis, en 1908, il est devenu, il faut le savoir, militaire de réserve.
Mais c'est avec la guerre de 1914 que Charcot se révèle chef de guerre.
Oui, d'abord brièvement comme médecin, mais dès 1915, il est commissionné en qualité de lieutenant de vaisseau auxiliaire de réserve. Et c'est là un aspect secret de sa guerre. Le gouvernement britannique lui confie la tête d'un équipage français sur un baleinier, le Meg, afin d'aller surveiller les déplacements des sous-marins autour des bases allemandes près des îles Féroé.
C'est un bateau piège ?
Oui, l'idée de Charcot est que le bateau d'apparence pacifique attire les sous-marins pour ensuite les détruire avec le soutien d'un sous-marin britannique. Il poursuit ensuite sa chasse aux sous-marins avec un groupe de 3 bateaux armés par la France et dont 16 hommes constituent les équipages. Ce sont de petits cargos, Jeanne et Geneviève, Michel et René et le Meg 2 commandé par Charcot lui-même. Le Jeanne et Geneviève sera coulé par un sous-marin, mais ces bateaux pièges ont permis l'élimination de plusieurs submersibles. Adverse.
Donc c'est un héros de guerre.
Oui, et c'est pour cela qu'après-guerre, le ministère de la Marine l'aide sans réserve et le promeut capitaine de frégate en 1923. Son vaisseau, le Pourquoi pas, devient un navire école de la Marine nationale et un outil de recherche en même temps pour le ministère de l'Instruction publique.
C'est vrai que ça change un peu l'image de l'explorateur angélique.
Bah de fait, c'était un patriote, ardent défenseur de la Marine nationale qui pensait que son rôle allait bien au-delà des activités militaires. C'est pourquoi il prônait une internationalisation des pôles et une solidarité entre les hommes. C'était un pionnier du rôle humanitaire des armées, un rôle qu'elles ont encore endossé lors de la récente crise du coronavirus.